Nous entendrons tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25, les versets 6 à 9.
Un festin pour tous les peuples. Sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse, arrosé de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins bien clarifiés. C'est là qu'il supprimera le voile du deuil qui portait les peuples, le rideau de tristesse étendu sur toutes les nations. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur.
C'est la seconde lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4.
Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre votre part de mes détresses. Vous le savez bien vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine à l'époque où commençait la diffusion de la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider, vous seul avez participé à mes profits et pertes. Déjà quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé, c'est plus que suffisant. Maintenant, qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen.
Nous entendrons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, les 14 premiers versets.
Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit: le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre: dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit: « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. »
Vous avez réentendu cette parabole du festin de noces. S'il y avait une seule remarque préalable à faire sur ce texte un peu déconcertant, elle consisterait sans doute à rappeler que le cœur de ces lignes n'est pas dans l'éviction sévère mais juste d'un énergumène qui n'aurait pas respecté le code vestimentaire. Si c'était le cas, la faute réprimée serait tout à fait superficielle. On l'aurait renvoyé au vestiaire, se changer. On se concentrerait, si c'était le cas, sur des détails insignifiants. Le bénéfice à retirer de cette parabole serait bien maigre. Mais au contraire, il s'agit ici de quelque chose de très profond, de tout à fait intime, et que la parabole du festin de noces nous invite à revisiter Pourquoi Jésus décide-t-il de parler par le moyen de paraboles ? Sans doute pour suggérer, comme il le fait à chaque fois, à son auditoire, que le royaume est accessible par l'image. C'est comme ça qu'on y entre. Et peut-être même que le royaume n'est lui-même qu'une image. Pourquoi pas ? Il me semble que Jésus utilise le moyen des paraboles parce que le pouvoir de la comparaison, de l'analogie, est immense et sans équivalent. L'image n'est pas une simple vue de l'esprit, inconsistante, sans force. Elle ne flotte pas au-dessus de nous comme une baudruche avant la crevaison fatale. Elle renvoie à quelque chose qui est en nous, bien enfoui, peut-être oublié, et qui reste à identifier et surtout à vivre, à incarner. Voilà ce qu'est une parabole, une image. Et dans la parabole du festin de noces, le premier public, les destinataires naturels de l'invitation, ceux qui avaient reçu le carton, refusent le cadeau qui leur est fait. C'est peu compréhensible d'ailleurs, comment résister à la possibilité de manger gratuitement. En tout cas, ils ont tous fui. Ils avaient tous quelque chose à faire, quelque chose de mieux. Ils étaient suroccupés et surtout, on l'apprend sur le tard, prêts à tuer. Mais tuer quoi ? Ce cruel rappel des mauvaises habitudes d'Israël qui tue tous les prophètes qu'on lui envoie est bien là pour nous rappeler notre propre dangerosité, nos impulsions, notre propre habitude à régler nos problèmes par une table rase. C'est ce que fait cet étrange roi dans un premier mouvement pour essuyer l'affront qui lui est fait par une bande d'ingrats. Il éradique le mal par une expédition punitive, un peu comme un dieu qui noie une humanité incurable par 40 jours et 40 nuits de pluie ininterrompue. L'épisode a beau nous paraître implacable et même dur, au fond, il nous paraît moralement convaincant, la méchanceté est punie. Parfait, ou plutôt bien fait. Mais alors pourquoi ce revirement incompréhensible chez ce roi ? Une fois passé l'accès de colère, tous les nouveaux venus ont le droit d'entrer. Les bons comme les méchants, on nous le dit. Plus de tri sélectif, plus de poubelles jaunes. Plus de poubelles marron, plus de containers pour les bouteilles de bière et les pots de cornichons. On mélange tout. Venez comme vous êtes. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? L'analogie avec le déluge joue encore ici. De la même manière que l'histoire de Noé montre un Dieu qui change d'avis, qui se repent, le roi de la parabole semble lui aussi se repentir d'un mauvais geste. Et de la même manière qu'on peut se demander si le Dieu qui ordonne l'inondation est bien le même que celui qui place l'arc-en-ciel à la fin, on peut aussi se demander s'il s'agit du même roi au début et à la fin de cette parabole du festin. Autre manière de se poser la question, n'y a-t-il pas eu changement, retournement, ou pour employer un patois de Canaan, n'y a-t-il pas eu conversion chez ce roi vindicatif ? Et si ce roi, c'était nous, plutôt que Dieu ? Et si cette parabole nous demandait simplement de nous convertir au royaume, comme on découvre un programme de vie ? Et en quoi consisterait cette conversion ? Le point de non-retour, le basculement dans le texte, a lieu au moment où ce roi passe de l'expédition punitive à l'ouverture maximale. Au moment où il renonce définitivement à un tri mortifère pour mieux proposer sa richesse à tous. La voilà, la conversion, notre conversion, ce roi qui change en passant du meurtre au pardon, c'est notre conversion. Nous passons, nous aussi, de l'expédition punitive à l'accueil, parfois dans le sens inverse. Si le texte de Matthieu s'arrêtait là, nous serions bien heureux de finir sur un bilan positif et favorable. Se convertir au point de passer d'assassin à bienfaiteur, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est à ce moment-là qu'intervient la fin de notre parabole qui raconte ce curieux épisode d'un homme exclu du festin parce qu'il a fait une entorse au code vestimentaire. De quoi s'agit-il ? C'est la deuxième métamorphose du roi de la parabole. Alors qu'il venait de vivre une conversion éclatante, dans le bon sens, le voici qui semble replonger dans une attitude d'exclusion. Mais si on y regarde plus près, ici, pas de mort, pas de condamnation, pas de massacre, simplement un homme est chassé, alors même que tous les autres continuent tranquillement leur repas. En ne revêtant pas le vêtement qui était pourtant requis pour participer à la fête, cet homme ne trouve rien à dire lorsqu'on lui en demande la raison. Il ne revendique pas, fièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, le vêtement de fête, la joie de participer à ce royaume où pourtant chacun a sa place, lui y compris s'il l'avait voulu. Son silence gêné dit son refus de changer de peau, puisque le vêtement est bien entendu une forme de peau, une surface qu'on peut changer. Il refuse de muer, c'est-à-dire au fond qu'il refuse la conversion qu'on lui propose, parce que nous avons aussi ce pouvoir-là. Eh bien, cet homme nous ressemble beaucoup, ou nous lui ressemblons beaucoup, si vous préférez. Il est une réponse possible à la proposition qui nous est constamment faite de nous convertir, c'est-à-dire de changer de peau, ou, comme le disait Jean-Baptiste, changer de comportement. Nous préférons parfois refuser de trouver en nous les ressources de cette conversion toujours à faire entre abandon et accueil. Comme l'écrit Clara Dupont-Monod dans La folie du roi Marc, elle se tait et mes mains fourmillent, je ne supporte pas son mutisme. Derrière son silence, je l'entends ordonner le saccage de ma vie. Eh oui, s'ouvrir aux autres, c'est justement retrouver la parole qui offre, qui redresse et qui sauve. Au contraire, se taire, c'est abandonner et peut-être bien préparer un saccage. Le royaume dont il est question dans cette parabole, c'est se transformer comme on change de peau, puis s'engager dans la mission à laquelle tous sont appelés. Amen.